J'aimerais ce matin ouvrir la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 1. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 1. Depuis bien longtemps, mais je dirais particulièrement dans ces derniers temps, nous sentons sur notre pays, et je dirais sur le monde entier, un vent de polémique. Un vent de contradiction et surtout une volonté de contredire la parole de Dieu d'une manière particulière. Et quand nous nous trouvons face à des personnes à qui nous partageons la foi, à qui nous partageons notre conviction en Jésus-Christ, il arrive parfois qu'ils essayent de trouver un moyen, d'une manière ou d'une autre, pour nous faire comprendre qu'ils ont raison qu'on a tort. Je lisais ce texte de Matthieu et j'aimerais le partager avec vous comme une méditation simple ce matin, mais il y a des choses qui m'ont interpellé particulièrement parce qu'il est question pour nous de savoir comment agir, comment réagir, comment répondre, n'est-ce pas? Quelle est la bonne réponse? Est-ce que quelqu'un a la bonne réponse? Certes. Alors voyons comment le Seigneur répondrait. Amen. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis, il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant de l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5 000 hommes et combien de panières vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportées? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous en parle. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Dans ce texte, nous avons 2 phases. La première phase, c'est cette échange de Jésus avec les pharisiens et les sadducéens. C'était 2 partis religieux. Les pharisiens étaient avec une vision très étroite, très légaliste. Ils étaient convaincus qu'il fallait mettre poids sur poids pour pouvoir atteindre le ciel. Vous savez, leur raisonnement était lié à leur, je dirais, fragilité. Quand on a besoin de mettre loi sur loi, c'est parce qu'en réalité, on n'est pas mort à nous-mêmes. On essaye de créer des règles pour vaincre ce que Christ a déjà vaincu à la croix et pour lequel nous ne sommes pas prêts encore à mourir à nous-mêmes. Je donne un exemple. Imaginez, parce que c'est des choses qui sont arrivées dans le passé, mais imaginez que je considère que l'art, les tableaux, soient péché. Tout simplement parce que dans ma manière de voir le tableau ou de réfléchir à l'image, à l'œuvre que l'artiste a pu faire, dessiner, moi je ne sais pas maîtriser mes pensées, je ne sais pas régler mon comportement. Et puisque je ne suis pas capable, je mets une règle, pas de tableau chez moi. Et dès que je vais chez quelqu'un et je vois un tableau, « Ah, tu commets un péché !» Je base ma loi sur un problème que j'ai. Et je l'impose. Et c'était un peu le fonctionnement des pharisiens. Ils essayaient d'imposer des choses pour déjà eux arriver à se contraindre à marcher avec Dieu. Mais est-ce qu'ils ont réglé leur problème? Le deuxième, c'était les Sadducéens. Alors lui, c'était encore autre chose. C'était un parti composé de pas un grand nombre, mais c'était des hommes instruits, riches, influents, détenteurs des fonctions publiques. Et pour eux, la seule loi écrite était déterminante, mais ils prétendaient avoir le droit de l'interpréter à leur guise. Il y avait la règle, et après il y avait l'interprétation personnelle. Et si je fais la relation entre le passé et le présent, je me dis qu'encore aujourd'hui, ces courants de pensée existent entre le légalisme et le libéralisme. Deux extrêmes. Mais les deux sont convaincus que ce qu'ils font, c'est pour Dieu. Et chose étonnante, en effet, ils viennent poser une question à Jésus et c'est comme une peau de banane. Le but, c'est de trouver un moyen d'accuser Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait chair. Et je voudrais nous rappeler ce matin à chacun d'entre nous que ni le légalisme, ni le libéralisme sont le message de Christ. Christ est dans l'équilibre. Et il nous appelle à vivre cet équilibre en tant qu'enfant de Dieu. Et même si, certes, il y a des choses dans notre vie qui ont du mal à nous quitter ou que nous avons du mal à quitter, ce n'est pas en nous construisant, excusez-moi, des cages, en les emballant d'un beau papier et en mettant un joli nœud évangélique, pentecôtiste, tout ce qu'on veut, qu'on aura résolu le problème. J'ai besoin, on a besoin, de venir à Christ et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Jésus donnera une réponse à ces hommes, à ces deux parties, et leur parlera du temps. L'idée de Jésus, c'est de leur dire « Regardez les temps dans lesquels vous êtes. Vous dites connaître la parole, mais vous n'arrivez pas à déterminer les temps. On peut avoir une connaissance intellectuelle et pour autant être, excusez-moi, à côté de nos chaussures, de nos pompes. Être à côté de la réalité, à côté du temps de Dieu. Et Jésus leur dit, vous sera donné un seul signe. Lequel? Celui de Jonas. Quelle magnifique histoire. Prochainement, on va parler de Jonas. On va prendre le temps d'analyser toute cette histoire et vous verrez quel enseignement incroyable avec Jonas. Mais quel a été le signe de Jonas? Cette invitation pour la ville de Ninive à la repentance. Sadducéens, pharisiens, mais les deux loin de Christ. Et en regardant ça, je me suis dit, Seigneur, en effet, tu n'as pas envoyé ton fils pour divertir les foules, il voulait un signe, et encore moins pour nourrir les polémiques religieuses de basse-cour. Non? Pourtant, à bien des reprises, Jésus a été confronté à des discours de ces derniers. Et nous aussi, il nous arrive parfois, ce n'est pas rare, d'avoir des personnes qui s'opposent au pain du ciel. Alors, je me suis posé la question, j'ai dit au Seigneur, en réfléchissant à ce texte, mais pourquoi tu n'as pas cherché à les convaincre? Comme ils étaient déjà, en effet, ils aimaient Dieu. Non? Au fond, ils aimaient Dieu. Et on pourrait se dire, mais au fond, ils aiment Dieu aussi à leur manière. Et pourtant, Jésus leur dit, non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas dans les extrêmes, c'est dans l'équilibre. Et en continuant à demander au Seigneur, il m'a amené à analyser ce texte d'Ésaïe 59 qui dit, Ésaïe 59 à partir du verset 1. Alors je vous rappelle, je dis Je dis à Dieu, mais pourquoi t'as pas essayé de les convaincre? Voici la réponse. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Merci Seigneur. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice, nul ne plaide, pardon, avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal, enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic. Ils disent, ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si on les brise, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. À quelque part, moi c'est comme ça que je l'ai compris. Le Seigneur ne vient pas pour forcer les portes. Et même si nous on peut dire « oui mais ils aiment le Seigneur », c'est notre regard. C'est une image, c'est une apparence. Mais au fond, est-ce qu'ils aiment vraiment le Seigneur? Et chose importante, est-ce que le Seigneur les aime? Certes. Mais vous savez, l'amour que Dieu nous offre n'est pas un amour à tout prix. Il y a un choix qui nous revient. Et à un certain moment, Dieu dit, mais leur péché, leurs actions, leur manière de voir, leur manière de faire, les sépare. Et un culte que je suis sur le monde animal, je me suis dit, ils couvent des œufs de basilic. Première pensée, je me suis dit, ils doivent prendre les œufs, ils mettent du basilic dessus. Non ? Non. Alors je suis allé chercher, je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi question du basilic, qu'est-ce qui c'est les questions des œufs, qu'est-ce qui est la question des toiles d'araignée? Et en effet, le premier exemple, celui des œufs, exprime la perversité cachée et la nature malfaisante des dessins. En effet, c'était des œufs de serpent. Ça représente la ruse. Et manger cet œuf, se nourrir de cette pensée, en effet, c'est malsain. Non? Et s'y opposer, l'écraser, c'est aussi risquer de se faire mordre, blesser. Et donc, ce n'est pas à cela que le Seigneur nous appelle. On n'est pas là pour rentrer dans des contestations. Et on n'est pas là pour accepter des compromis. Deuxième exemple, c'est l'image de la toile d'araignée et qui exprime la nature décevante de leurs œuvres. Bien que tramée habilement, et les sans solidité, elle demeurera stérile pour eux-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui vont s'associer. Que nous soyons, excusez-moi, dans un extrême, ou que nous soyons dans l'autre, on fait fausse route. Alors, Seigneur, quoi faire? Et Ésaïe 58 nous invite à quelque chose. Ésaïe 58, versets 12 à 14, il dira « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Alors la question ce matin est, que voulons-nous vraiment ? Si on devait suivre nos penchants, on pourrait risquer de tomber d'un côté ou de l'autre, non ? On pourrait se dire, ah, là, j'aime bien, c'est carré. Mais tellement carré, qu'où est la grâce ? Et je pourrais aller de l'autre côté et me dire, oh, la grâce. Mais il y a tellement, excusez-moi, de grâce, qu'il n'y a plus la vérité, il n'y a plus la justice, il n'y a plus la sainteté. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné cette définition de ce texte, ce verset qui dit, car Dieu nous a donné un esprit d'amour, de force, et de sagesse. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité, on est d'accord. Alors, moi je le décris comme ça. Vous connaissez ces anciens moyens pour peser. Vous aviez deux plateaux. Hein ? D'un côté, le plateau de la force. De l'autre côté, le plateau de l'amour. Et au centre, la sagesse, l'équilibre. Trop de force et pas d'amour, c'est du légalisme. Trop d'amour et pas de force, c'est de la séduction. Mais la force et l'amour dans l'équilibre et dans la sagesse de Dieu, ça c'est ce que Dieu nous a donné. Et c'est ça que nous devons rechercher. C'est pour ça que la parole de Dieu dans ce texte d'Ésaïe nous invite à retenir. Il nous invite à venir. Il nous invite à placer notre volonté sous l'autorité de Dieu. Et alors, c'est Dieu qui nous conduit et il nous conduit où ? Il nous fera connaître le plaisir de l'Éternel et il nous fera monter sur les hauteurs. Qu'est-ce qu'on découvre quand on est dans les hauteurs ? Les verts pâturages. Ce matin, je discutais avec Marc des lieux où on aime bien se trouver pour prendre un peu de repos. Et Marc me disait, ah, moi j'aime bien aller à la montagne. Crapahuté, c'est ça ? Il crapahute, le frère. Si un jour vous le voyez partir rapidement, c'est qu'il crapahute. Visiter, découvrir la beauté de la nature. Il y a quelque part, on a presque le sentiment qu'on est un tout petit peu plus proche de Dieu. Hein ? On est à la hauteur, on voit des choses qu'on ne verra pas si on était en bas dans la vallée. Et dans la vallée, vous savez, souvent dans la parole de Dieu, c'est synonyme du lieu de bataille. Dans la vallée, c'est là qu'il y avait les combats. Et dans la hauteur, hein, à l'image de Moïse, c'est là qu'on était dans la prière. Un autre mode de combat, mais nécessaire. Dans la hauteur, c'est là où le Seigneur nous amène pour voir aussi l'héritage qu'il nous a donné. À la hauteur, il nous permet aussi de voir le chemin parcouru derrière nous. Dans les hauteurs, le Seigneur nous y invite, frères et sœurs, à chaque fois que nous nous retrouvons ensemble. Il nous invite à monter vers lui, à apporter nos louanges, notre adoration. Alors, j'ai été interpellé particulièrement par la réaction de Jésus. Si on peut revenir à notre texte de la méditation, s'il te plaît, Matthieu chapitre 16, verset 4. La dernière phrase. Jésus donne leur réponse, sa réponse et après, qu'est-ce qu'il fait, Jésus ? Puis, il les quitta et il s'en alla. Comme je disais tout à l'heure, Jésus n'est pas venu pour alimenter des discussions inutiles et stériles. Jésus savait quel était son mandat, il savait quel était le travail à accomplir, il savait que Satan aurait tout mis en œuvre pour lui empêcher d'avancer. Est-ce que vous croyez que Satan essaye de trouver le moyen de vous empêcher d'avancer ? Alors, vous voulez un conseil? Quittez toute forme de polémique. Quittez toute forme de situation, de discours, d'action stérile. Un jour, j'ai reçu cette phrase dans mon cœur. Tout ce qui nous enrichit pas nous appauvrit. Ça m'est tombé dessus comme ça. Je ne suis pas du style philosophe. Pas du tout. J'étais en train de prendre ma douche. Et à ce moment-là, je réfléchissais à mon message. Et là, cette parole, tout ce qui ne nous enrichit pas, il nous appauvrit. Et frères et sœurs, il y a des choses qui sont là et que l'ennemi met pour nous appauvrir. Nous enlever nos forces, nous enlever le temps, nous enlever les énergies, nous enlever l'envie, le désir de témoigner. Quand vous avez, excusez-moi, pris du temps avec quelqu'un qui vit dans les polémiques, une fois que vous avez terminé de discuter avec lui, est-ce que vous êtes tout de suite prêt à aller témoigner à quelqu'un d'autre? Pourquoi? Parce que vous vous sentez vidé. C'est vrai ou pas? Et voyez, Jésus ne fait pas l'erreur et nous donne une direction. Il les quitta, ils sont là, c'est bon. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Maintenant, à vous de mettre en fonction vos neurones. Réfléchissez. Approchez-vous de Dieu. Tu veux t'approcher de Dieu, c'est pas la repentance. Il n'y a pas d'autre chemin. Vous savez, on ne trouvera pas de discours pour convaincre qui que ce soit. Et je crois que ce n'est pas le but. Il y a un verset dans la Bible, alors que ce n'est pas dans toutes les traductions traduites comme ça, qui dit « J'étais convaincu et je me suis laissé convaincre. » C'est beau, hein ?« J'étais convaincu et je me suis laissé convaincre. » Celui qui cherche Dieu vraiment, Dieu se laisse trouver. Cherchez l'Éternel tant qu'il est proche, n'est-ce pas? Alléluia! Donc moi je suis sûr, certain que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent vraiment. Mais il a toujours existé, il y a toujours eu une part d'humanité qui a préféré chercher d'autres chemins en pensant qu'ils auraient pu atteindre le ciel. Suite du texte, Jésus quitte ses discussions et se retrouve avec les disciples. Et là, on devrait se dire, ah Seigneur, là c'est du pain béni. Et Jésus leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et là, les disciples, qui cogitent beaucoup, mais pas forcément toujours dans la bonne direction, ils se disent, mince, on a oublié de passer chez le boulanger. Pierre, c'est toi qui devais passer. Moi, Pierre, pourquoi moi, Pierre? Jacques, Jean. Jean, toi, le disciple de l'amour, t'aurais dû aller acheter deux baguettes. Et Jean, mais moi, je suis tout amour. J'étais occupé. Et je pensais que... Attends, c'est qui avait les sous? Judas, t'as pas acheté le pain! Mais vous savez, on oublie que juste avant cette histoire-là, cette discussion-là, en effet, il y avait eu quelque chose de particulier. C'est pour ça que Jésus leur dit, mais vous n'avez pas compris, qu'est-ce qui s'est passé avec les 5000 hommes? Il y a eu combien de paniers de récoltés? Et avec les 4000, donc... Encore une fois, il y a eu une bénédiction incroyable. Combien il y en a eu? Vous n'avez pas encore saisi. Et là, moi, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie spirituelle de la surabondance de ta grâce? Est-ce qu'on l'a oublié sur la côte avant de prendre le bateau? Parce que, vous imaginez, avec tout ce qu'il y avait eu là de bénédiction, il n'y en a pas un qui s'est dit, tiens, on va en prendre un pour nous, pour la route. Je ne sais pas si à minuit, on a envie de manger. Si on a le temps de manger, parce qu'avec Jésus, il n'y avait pas beaucoup de temps pour manger. Ils étaient au travail. À un moment, les disciples, Jésus, viens manger. Ah ben, j'ai déjà mangé. Comment t'as mangé? Ah oui, moi, je... Ce n'est pas le pain de la terre, c'est le pain du ciel. Néanmoins... Il y a une certaine heure, je ne sais pas chez vous, il y a une certaine heure où moi j'ai plus faim. Je ne peux plus avoir faim. Pour moi, c'est impossible d'avoir faim. Mais je sens le vide. J'ai été opéré de l'estomac, on a enlevé la glande qui sécrète la faim. Donc je ne peux pas avoir faim, mais je sens quand l'estomac est vide. Le Seigneur fait bien les choses. Alors quand je dis à ma femme, j'ai faim, non, tu n'as pas faim, tu as raison. Je sens que je suis vide. Allez, prépare quelque chose. Le Seigneur, frères et sœurs, nous invite en réalité, par sa parole, à se dire qu'est-ce que je fais des bénédictions de Dieu? Est-ce que je les considère comme quelque chose qui va me permettre de faire face à une provision? Ou est-ce que je le considère comme des restes? Vous avez été déjà bénis, je le crois et je le pense, puisque je le pense, je le dis, au-delà de ce que vous auriez imaginé, n'est-ce pas? Qui peut dire que j'ai été béni au-delà? Est-ce que ce surplus de bénédiction, on le considère comme une provision ou comme des restes? Parce que très rapidement, on peut monter sur le bateau et aller, on y va, Seigneur, on y va, on va vivre autre chose. Et tu laisses ce que Dieu t'a donné. C'est ce qui va te permettre de passer à la prochaine étape. On vit un miracle avec le Seigneur et vous savez, très souvent, on oublie et on passe à autre chose. On oublie presque même d'en témoigner. Et le Seigneur nous dit, mais attends, tu vois pas ce que tu viens, t'as pas compris ce que tu viens de vivre. Alors comment je considère, moi? Comment je considère cette parole du Seigneur? Jésus leur dit, gardez-vous du levain. Gardez-vous du légalisme, gardez-vous du libéralisme. Le légalisme, c'est ce qui rend le pain dur et indigeste. Le libéralisme, c'est ce qui fait que le pain devient de la brioche. Je l'appelle, moi, et le mot, je ne sais pas si ça existe, du commodisme spirituel. Voilà. Si vous ne l'avez pas sur le dictionnaire cette année, peut-être la prochaine. Je dois d'abord signer les papiers. Le commodisme spirituel. Vous savez, cette commodité dans laquelle on s'installe. Jésus, je veux te suivre. Et le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Et Jésus leur dit, comment vous ne comprenez pas? Frères et sœurs, le Seigneur nous a invités et ce matin on a pris du pain et du vin. Il nous a appelés à nous nourrir du pain du ciel. C'est vrai ou pas? Alors certes, quand vous venez, le pain est déjà préparé, le vin, tout est bien disposé, mais si je reviens à l'origine, il fallait sortir le matin pour aller récolter la manne, non? Et chacun devait en prendre pour le besoin qui était le sien. Est-ce qu'on continue tous les matins à aller chercher notre manne? Est-ce que spirituellement, tous les matins, on va prendre le pain qui vient du ciel ou est-ce qu'on se contente du pain d'ici-bas? Le pain d'ici-bas, vous savez, il rassit très rapidement, surtout quand il fait chaud. Achetez une baguette, vous la coupez, vous la laissez quelques heures, vous allez voir après si c'est tendre comme avant. Elle durcit, n'est-ce pas? On est obligé de trouver d'autres moyens pour la consommer. Mais quand c'est le pain du ciel, même si la situation, excusez-moi, nous amène dans un moment où on dit, Seigneur, c'est chaud, hein? C'est compliqué, Seigneur, mais le pain qui vient du ciel gardera le bon goût, la parole qui vient de Dieu, la présence de Dieu dans notre vie, l'action de Dieu dans notre existence. Ce secours de Dieu qui est là pour nous encourager. Alors Jésus rappellera à ses disciples de se garder des enseignements, de se garder des doctrines pernicieuses, de se garder de la méchanceté, de se garder de toutes ces choses qui font partie de l'esprit du monde, de tout ce qui est fait pour en effet entraîner, si possible, même les élus dans la chute et de s'attacher au pain du ciel. Nous prenons le pain et le vin le dimanche et je crois que je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas grave. répéter, c'est un principe médical, c'est une piqûre de rappel. C'est pour garder toujours la validité du bon vaccin. Nous approcher du pain et du vin, la parole de Dieu nous dit de ne pas le faire avec, vous savez, simplicité, en oubliant les responsabilités qui vont avec. Le pain reste du pain. Le vin reste du vin. Il n'y a pas de changement ni en chair ni en sang, mais ils ont une valeur spirituelle pour celui qui s'y approche et qui doit s'y approcher dignement, dit la parole de Dieu. Alors si je devais compter sur mes propres forces, je devrais me dire, ah, cette semaine, Emmanuel, c'était pas bon, t'as pas le droit. T'as pas respecté toutes les règles, l'esprit légaliste. Et après, je regarde, ah, il l'apprend. Il l'apprend pas, hein. Et là, je me mets dans une position qui n'est pas juste. Et si je l'apprends avec légèreté, ouais, c'est pas grave. Mais quelque part, je m'expose et la parole de Dieu me dit à quoi je m'expose. Alors, qu'est-ce qui est juste? C'est ce que Dieu a mis au centre, la sagesse. Je sais qu'autant qu'homme, je reste un pécheur. Et je sais que j'ai besoin du pain du ciel. Ce ne doit être ni les règles, ni le laxisme qui doivent m'empêcher de m'approcher de Dieu. Dieu est mon plus grand bien. Ce n'est pas à cause du regard des autres. Si je prends la Sainte Cène pour que les autres voient que je la prends tous les dimanches et donc je suis bon, ça n'a rien. Vous savez, quand on est dans certains moments, moi je vous le dis sincèrement, hein, moi je ne vous vois plus. Pas parce que je ne vous aime pas, mais parce que je suis là pour le Seigneur. Hein. Et j'espère que vous faites la même chose, vous n'êtes pas là pour moi. Hein. Moi je ne peux rien pour vous, je ne peux pas vous sauver, je ne peux pas vous... Non, on est là pour le Seigneur et c'est entre moi et Dieu. Et Dieu sait. Dieu sait les efforts que j'ai pu faire, mais aussi les fragilités qui sont dans ma vie. Et si je viens au Seigneur en disant, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, j'ai faim de toi. Là, j'ai le pain du ciel qui descend. Si mes problèmes, je les apporte au Seigneur, là, j'ai le pain du ciel qui vient. Si mon besoin de grâce, je le révèle à Christ. Là, j'ai le pain du ciel qui descend. Si on vient le dimanche matin, frères et sœurs, ce n'est pas pour remplir des chaises. Si c'est pour ça que vous venez, excusez-moi, ça ne sert à rien. On vient pour nous nourrir spirituellement et recevoir cette bénédiction qu'il nous permet de continuer le voyage. Demain, certains reprennent le travail. Remontent sur le bateau. D'autres retrouvent d'autres obligations, d'autres implications. C'est reparti. Comment nous allons faire le voyage? Oh Seigneur, j'ai oublié le pain. Ou est-ce qu'on profite aujourd'hui de dire Seigneur, remplis mon cœur. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Et vous savez, ça ne devrait pas s'arrêter qu'au moment à l'église. C'est le jour du Seigneur. Ce n'est pas la demi-heure, ce n'est pas l'heure. Ah, l'heure, paf, c'est fini. Mince. Non, c'est le jour du Seigneur. Moi, je voudrais vraiment vous inviter, quand vous rentrez chez vous, à reprendre les textes qu'on a pu lire. Certainement, le Seigneur vous montrera autre chose que moi, je n'ai pas dit. Mais parce que c'est entre vous et Dieu, et c'est le but, non? Et là, vous recevez, vous verrez que ce n'est pas, excusez-moi, une baguette réchauffée au micro-ondes que le Seigneur vous a donnée. Ah non, c'est du bon pain. Vous savez, ce bon pain que quand vous sortez de la boulangerie, elle n'arrive pas à la maison. Vous connaissez, vous, des boulangeries comme ça? Hein? Vous êtes obligé d'en prendre plus. Je dis, je dois ramener le pain à la maison, mais... J'en prends une en plus, on ne sait jamais. Et ce, on ne sait jamais au combien de fois nous, dans la voiture avec les enfants, on partait après la réunion. Le Seigneur nous avait demandé et nous avait amené à servir l'église. On était à 60 km de chez nous. On partait le matin très tôt avec les enfants. Le plus petit était dans le couffin. Les biberons pour l'aller, le biberon pour le retour. Et vous imaginez, on arrivait à la maison, il était quasiment 14 heures. Les deux plus grands, ils étaient affamés. Hein. Alors Elisabeth, elle allait acheter une baguette. Mais une baguette, on ne faisait même pas la sortie du village. Hein. Et moi, je me dis que spirituellement, frères et sœurs, c'est à ça que Christ nous appelle. Et vous savez, certes, si le pasteur a une responsabilité, c'est la sienne, mais il y en a une qui est la vôtre. C'est celle de vous nourrir du bon pain. De ne pas vous nourrir de choses, excusez-moi, qui sortent de certaines boulangeries, qui laissent de mauvais goût. Restez attachés à la saine parole. Restez attachés à ce que le Seigneur vous a apporté ce matin et continuez aussi le mardi, le vendredi, c'est des temps où le Seigneur nous invite à sa table. Mais après, chez vous, la table du Seigneur, elle est dressée, non? Oui? Je l'espère. On incline nos têtes. Et ce matin, j'aimerais donner peut-être juste quelques instants l'occasion à ceux qui peut-être ils ont un moment ou un autre dans leur vie, par manque de connaissances, ou parce qu'ils ont fait trop confiance à droite, à gauche, se sont laissés peut-être entraîner dans un comportement ou dans un autre, mais de saisir l'occasion de dire « Seigneur, c'est toi que je veux te suivre. » On l'a chanté « Jésus, je te suivrai. » Seigneur, accorde-moi de chercher que le pain du ciel. Seigneur, aide-moi à m'approcher de toi véritablement, Seigneur. Seigneur, à ne pas faire entrer quelconque forme de levain d'orgueil dans ma vie personnelle, mais Seigneur, à m'approcher de toi comme ta parole l'enseigne. Seigneur, avec vérité, sincérité, avec sagesse, avec un cœur, une foi, des yeux et des mains pures. Seigneur, encore ce matin, ton enseignement, ta parole nous amène, Seigneur, à nous garder du monde, à nous garder de la pensée du monde, même si couvert d'une forme de spiritualité quelconque, mais aussi, Seigneur, à ne pas oublier, Seigneur, la bénédiction que tu nous as accordée par le salut en Christ. Seigneur, à ne pas continuer le voyage sans avoir pris le temps, Seigneur, de vérifier nos réserves. Seigneur, à ne pas avoir entamé un pas de plus sans, Seigneur, analyser les choses selon ton point de vue. Seigneur, tu as dit à ces hommes que le seul signe qui leur était donné, c'était celui de Jonas. Seigneur, encore aujourd'hui, pour la génération qui est la nôtre et qui est aussi méchante que celle de Ninive, il y a un seul chemin, c'est la repentance. Nous l'avons expérimenté, Seigneur, et à la repentance, tu accordes la grâce véritable. Seigneur, merci de nous donner, Seigneur, de porter dans nos cœurs, dans nos vies, ce message de grâce avec l'équilibre qu'il faut, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, d'être dans les extrêmes, mais Seigneur, amène-nous davantage à être, Seigneur, dans l'équilibre. Seigneur, le monde a besoin de trouver de l'équilibre. Cette ville, elle a besoin, Seigneur, d'un témoignage équilibré. Seigneur, le monde a besoin de ta parole. Et donne-nous de rester, Seigneur, toujours et de demeurer, Seigneur, ce peuple qui vit dans l'équilibre de Jésus-Christ. Seigneur, garde ton Église. Nous te prions, Seigneur, garde-nous de tomber dans quelconque autre forme, Seigneur, de mode et de vision, Seigneur, qui ne soit pas conforme à ta parole, Seigneur. Seigneur, je te prie encore pour tous ceux et celles qui sont là ce matin. Seigneur, certes, cette parole a parlé à certains d'une manière, à d'autres d'une autre, mais je te prie que cette parole continue, Seigneur, à travailler leur cœur. Merci encore pour ta fidélité et ta miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.